Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Why do I write? To investigate the mystery of existence.
Giumpa Lahiri.
Perché scrivo? Per indagare il mistero dell'esistenza.
Pourquoi j'écris? Pour percer les mystères de l'existence.
Sono di continuo a caccia di parole. I'm constantly hunting for words.
Je pars constamment à la chasse des mots.
Ça peut pas faire de mal.
I just moved back from Rome.
Je viens de revenir de Rome. Et ce qui m'a manqué le plus, d'une certaine manière, est la langue. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à y revenir après tout ce temps. Je le ressens comme si c'était une forme de destinée. Je suis tombée amoureuse de la langue.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Dans sa jeunesse, il s'était consacré à l'étude des langues étrangères et avait possédé une impressionnante collection de dictionnaires. Il avait rêvé d'être un interprète auprès des diplomates et des ministres et d'aider à résoudre des conflits dont lui seul pourrait comprendre les parties adverses. C'était un autodidacte. Tous les soirs, avant que ses parents n'aient arrangé son mariage avec une cousine de Calcutta, il avait noté les étymologies communes des mots et au bout de quelques années, il avait été sûr de pouvoir converser en anglais, français, russe, portugais et italien sans parler de l'hindi, du bengali, de l'oriya et du gujarati. Maintenant, hélas, seule une poignée d'expressions ou de termes européens lui restait en mémoire. L'anglais était la seule langue non indienne qu'il parlait encore couramment. Cela lui servait bien pour son activité de guide. C'est pourquoi il était flatté que sa cliente, Mrs. Das, une américaine d'origine indienne, fût si intriguée quand il parla de son autre travail. Il était interprète pour un médecin. Elle avait utilisé le mot « romantique ». Il voyait bien qu'elle ne se comportait pas d'une façon romantique avec son mari, et pourtant elle avait employé ce mot pour décrire ce que lui, M. Capazzi, faisait. Traduire aux médecins de la ville les maladies de ses patients, originaires de toutes les régions de l'Inde. Il se demanda si leur couple était mal assorti, comme l'était celui qu'il formait avec sa propre femme, qui avait peu de considération pour lui. Peut-être ces touristes avaient-ils eux aussi peu de choses en commun, à part 3 enfants et 10 ans de vie sous le même toit. Il reconnaissait toujours les signes d'un mariage bancal, les chamailleries, l'indifférence, les longs silences. L'intérêt soudain que Mrs. Das lui témoignait était légèrement grisant. « Dans un sens, les patients dépendent plus de vous que du docteur », avait-elle dit. « C'est une grande responsabilité et c'est tellement romantique ». Quand il repensa à la façon dont elle avait dit « romantique », cette sensation de griserie s'amplifia. Il la regarda dans le rétroviseur tout en conduisant et il s'emplit du parfum qui émanait d'elle. Guide touristique et autodidacte, M. Capazzi est doué d'un talent singulier, déceler les mots de l'âme, ces infimes fissures qui éloignent les êtres les uns des autres, comme les mots s'éloignent de leur étymologie en passant d'une langue à l'autre. Il est le personnage qui donne son titre à un recueil de nouvelles, L'interprète des maladies, un premier ouvrage paru il y a 20 ans sous la plume d'une jeune auteure américaine d'origine indienne, Giumpa Lahiri. Comme la majorité de ses personnages, des Indiens immigrés aux États-Unis, la romancière est une déracinée, déchirée entre sa langue maternelle, le bengali, et sa langue d'adoption, l'anglais tyrannique, comme elle le désigne elle-même. C'est pourtant l'anglais qui lui apporte la reconnaissance, puisque son premier livre est salué par le prix Pulitzer en l'an 2000. Née à Londres en 1968, Giumpa Lahiri vit à New York et à Princeton où elle enseigne. Sensible au mal-être et à la nostalgie de la communauté indienne, elle ausculte à merveille le mélange des cultures et analyse avec finesse le rapport douloureux à la langue. En 2015, elle publie un essai intitulé « Une altra parola », en d'autres mots. Un témoignage émouvant sur la difficulté de s'ancrer dans une langue étrangère, mais aussi un livre qui m'a bouleversé, car il raconte comment la frustration peut être source de création et non pas de haine ou de colère. Ce soir, je vous invite à découvrir cette quête passionnante d'un écrivain qui, pour tenter de reconquérir son identité, se lance un nouveau défi, apprendre une troisième langue.
Ve la ricordate come la bella Zampano?
Pour Giumpa Lahiri, que je salue avec beaucoup de respect et d'admiration. Comme pour son personnage, Monsieur Capazzi, ce sera le détour par l'Europe et le choix d'une langue qui remonte aux origines de la culture occidentale, l'italien.
Il avait insegnato la Rosa. Cosa faceva la Rosa? Lavorava come me.
En d'autres mots, est le premier livre écrit en langue italienne par Giumpa Lahiri. Il est publié chez Actes Sud et la merveilleuse traduction française est de Jérôme Orsoni. Un matin, vers la fin de l'été, je vais au lac où je rencontre deux amis. J'ai décidé de traverser le lac avec eux, pour atteindre enfin la maisonnette de l'autre côté. J'en ai assez de rester près du bord. Je compte les brasses. Je sais que mes compagnons sont dans l'eau avec moi, mais je sais que nous sommes seuls. Après 150 brasses environ, je suis déjà au milieu, dans la partie la plus profonde. Je continue. Après 100 autres brasses, je revois le fond. J'arrive de l'autre côté, j'y suis parvenu sans problème. Je vois la maisonnette jusqu'alors lointaine à deux pas de moi. Je vois les petites silhouettes distantes de mon mari, de mes enfants. Il me semble impossible de les rejoindre, mais je sais que je le peux. Après une traversée, la rive connue devient le côté opposé. Ici devient là-bas. Pleine d'énergie, je traverse à nouveau le lac. J'exulte. Pendant 20 ans, j'ai étudié la langue italienne comme si je nageais le long des contours de ce lac. Toujours à côté de ma langue dominante, l'anglais, l'allongeant toujours. C'était un bon exercice. En étudiant une langue étrangère de cette façon, on ne peut pas se noyer. L'autre langue est toujours là pour te soutenir, te sauver. Mais on ne peut pas nager sans prendre le risque de se noyer, de couler à pic. Pour connaître une nouvelle langue, pour s'immerger, il faut quitter la rive, sans bouée de sauvetage, sans pouvoir compter sur la terre ferme. Quelques semaines après avoir traversé le lac caché, je fais une seconde tentative, bien plus longue, mais rien de fatigant. Ce sera le premier véritable départ de ma vie, cette fois en bateau, à travers l'océan Atlantique, pour vivre en Italie. Découvrons à présent la Bible qui sert alors de boussole à notre apprentie exploratrice. Comme son personnage, M. Capazzi, Giumpa Lahiri a une passion pour les dictionnaires. Voici la description de l'exemplaire qu'elle achète dans une librairie de Boston à l'occasion d'un premier voyage à Florence en 1993. Celui que je choisis a une couverture en plastique, verte, indestructible, imperméable. Il est léger, plus petit que ma main. Il a plus ou moins la taille d'une savonnette. Au dos, il est écrit qu'il contient environ 40 000 mots italiens. Depuis, pendant de très nombreuses années, chaque fois que je vais en Italie, je prends ce dictionnaire avec moi. Je le mets toujours dans mon sac. Il me guide, il me protège, il m'explique tout. Il devient une carte aussi bien qu'une boussole sans laquelle je serais perdu. Il devient en quelque sorte un père qui fait autorité, sans lequel je ne peux pas sortir. Je le considère comme un texte sacré, plein de secrets, de révélations. Sur la première page, à un moment, j'écris « Provare a égale cercare di »« Essayer de ». Ce fragment fortuit, cette équation grammaticale, peut être compris comme une métaphore de l'amour que j'éprouve pour l'italien. Une chose qui, au final, n'est rien d'autre qu'une tentative obstinée, un essai continu. 20 ans après avoir acheté mon premier dictionnaire, je décide de m'installer à Rome pour un long séjour. Après 2 mois, peu à peu, je me rends compte que je ne consulte pas souvent le dictionnaire. Quand je sors, il a tendance à rester dans mon sac, fermé. Par conséquent, je commence à le laisser à la maison. Je perçois un changement, un sentiment de liberté et en même temps de perte. J'ai grandi, au moins un peu. Aujourd'hui, j'ai bien d'autres dictionnaires sur mon bureau, plus grands, plus denses. Désormais, la couverture du plus petit semble un peu décolorée, un peu sale. Les pages sont jaunies. Certaines ne sont plus bien attachées à la reliure. D'habitude, il reste sur la table de nuit où je peux le consulter facilement pour y chercher un mot inconnu en lisant. Ce livre me permet d'en lire d'autres, d'ouvrir la porte d'une nouvelle langue. Il m'accompagne aujourd'hui encore quand je pars en vacances pendant les voyages. Il est devenu une nécessité. Si par hasard, quand je pars, j'oublie de l'emporter avec moi, je me sens un peu mal à l'aise, comme je me sentirais si j'oubliais ma brosse à dents ou une paire de chaussettes. Désormais, ce petit dictionnaire me fait plus penser à un frère qu'à un père. Et pourtant, il me sert, il me guide encore. Il est plein de secrets. Il est toujours ce petit livre, plus grand que moi.
Questa signora che rientra a casa costeggiando il muro dell'antico palazzetto patrizio è un'attrice romana, Anna Magnani, che potrebbe essere anche un po' il simbolo della città,
Che so io?
Una Roma vista come lupa e vestale, aristocratica e stracciona, tetra, buffonesca. Potrei continuare fino a domattina.
A Federico, va a dormire, va.
Si le dictionnaire joue le rôle du père, puis du frère, l'enjeu est bien de grandir avec la langue. Après un premier séjour d'une semaine à Florence, la jeune femme rentre aux États-Unis où elle éprouve une véritable nostalgie de l'italien pour lequel elle a eu un coup de foudre. Si, comme dans toute relation amoureuse, le désir s'exacerbe avec la distance, l'auteur souffre au contraire d'une séparation géographique qui lui rappelle sa rupture avec ses origines. Mon histoire avec l'italien a lieu en exil, dans un état de séparation. Je pense à Dante, qui attendit 9 ans avant de parler à Béatrice. Je pense à Ovide, banni de Rome dans un lieu lointain, dans un avant-poste linguistique entouré de sons étrangers. Je pense à ma mère qui écrit de la poésie en bengali, en Amérique. Depuis presque 50 ans qu'elle s'y est installée, elle n'a pas pu trouver un livre écrit dans sa langue. En un sens, je me suis habitué à une espèce d'exil linguistique. Ma langue maternelle, le bengali, est une langue étrangère en Amérique. Quand on vit dans un pays où sa propre langue est considérée comme étrangère, on peut ressentir un sentiment d'étrangeté permanent, un manque qui crée une distance à l'intérieur de soi. Dans mon cas, il y a une autre distance. Je ne connais pas le bengali à la perfection. Je ne sais ni le lire ni l'écrire. Je le parle avec un accent, sans assurance, comme si c'était une seconde langue. Par conséquent, je pense que ma langue maternelle est aussi paradoxalement une langue étrangère. En ce qui concerne l'italien, l'exil a un aspect différent. À peine nous sommes-nous connus, la langue et moi, que nous nous sommes éloignés l'une de l'autre. Ma nostalgie de l'italien peut paraître idiote et pourtant je la ressens. Comment est-ce possible que je me sente exilé d'une langue qui n'est pas la mienne, que je ne connais pas? Peut-être parce que je suis un écrivain qui n'appartient à aucune langue du tout.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Or la blonde arena que la miel m'a sous pequeña huesa no vuelve más y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y
los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy y que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad y poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina vestida de mar.
Carlos Fuentes, écrivain.
La langue n'est pas quelque chose de donné. Il faut l'inventer, il faut l'insulter, il faut se battre avec elle, il faut la rappeler, il faut la traîner par la boue, il faut faire n'importe quoi, mais presque comme un somnambule, il faut dire « réveille-toi, bout de gifle, mais tu n'as pas le droit de mourir. Je ne te laisserai pas mourir entre mes mains. » Tandis que je serai ici avec une plume à la main, un bout de papier devant moi, tu ne mourras pas.
Des années passent. Jhumpa Lahiri devient mère, s'éloigne un temps de son projet, puis un jour, elle prend une grande décision. Après Florence, la romancière découvre Venise, Rome, Mantoue. À l'occasion de salons littéraires où elle est invitée et où ses éditeurs italiens l'aident à pratiquer la langue. En 2009, de retour à New York, elle prend des cours particuliers chez une Italienne, une vieille dame, veuve, émigrée aux États-Unis depuis 30 ans. C'est le début d'un grand voyage. Il me faut pratiquement une heure pour y aller. Je prends le Metropolitan jusqu'à la limite de Brooklyn, presque au terminus. J'aime ce voyage. Je sors de la maison. Je laisse derrière moi le reste de ma vie. Je ne pense pas à mon écriture. J'oublie pendant quelques heures les autres langues que je connais. Il me semble chaque fois que c'est une petite fugue. Un lieu m'attend où seul compte l'italien. Un abri d'où s'échappe une nouvelle réalité. Je suis très attaché à mon enseignant. Bien que nous ne soyons vouvoyés pendant 4 ans, nous avons un rapport étroit, familier. Nous nous asseyons à sa petite table, sur un banc de bois derrière la cuisine. Je vois ses livres sur les étagères, les photos de ses petits-enfants, de magnifiques casseroles en cuivre au mur. Avec elle, mon projet me semble plus possible qu'impossible. Avec elle, mon étrange dévouement à la langue me semble plus une vocation qu'une sottise. Nous parlons de nos vies, de l'état du monde. Nous faisons une foule d'exercices, arides mais nécessaires. Après les leçons, je me sens soit épuisée, soit déjà prête pour la prochaine. Après l'avoir saluée, après avoir refermé la grille derrière moi, j'ai hâte de revenir. À un certain moment, les leçons avec l'enseignante vénitienne deviennent mon occupation préférée. En étudiant avec elle, la prochaine étape inévitable de ce bizarre voyage linguistique que je fais se dévoile. À un certain moment, je décide de m'installer en Italie. Je choisis Rome, une ville qui me fascine depuis que je suis enfant, qui me conquiert tout de suite. La première fois que j'y suis allé, en 2003, j'ai ressenti une impression de ravissement, une affinité. Il me semblait que c'était une ville que je connaissais déjà. Je savais au bout de quelques jours seulement que j'étais destiné à y vivre. À Rome, je ne connais presque personne, mais je n'y vais pas pour rencontrer quelqu'un. J'y vais pour changer de route et rejoindre la langue italienne. Pour me préparer, je décide, 6 mois avant de partir, de ne plus lire en anglais. Je me résous à ne plus lire qu'en italien. Je crois qu'il est nécessaire de tourner le dos à quelque chose de familier, d'essentiel. Chaque fois que je le peux, à mon bureau, dans le métropolitain, au lit avant de dormir, je m'immerge dans l'italien. J'entre dans un territoire inexploré, laiteux, une espèce d'exil volontaire. Même si je suis encore en Amérique, je me sens déjà ailleurs. Je lis Moravia, Pavese, les poèmes de Quasimodo, de Saba. Je comprends et en même temps, je ne comprends pas. Je renonce à la maîtrise par défi. Je troque la certitude pour l'incertitude. À cette période, je me sens divisé. Je vais finir un roman. Il n'est pas possible d'abandonner l'anglais. Toutefois, ma langue la plus forte semble déjà derrière moi. Je pense à Janus Biffron, deux visages qui regardent en même temps le passé et l'avenir. L'antique dieu des seuils, des commencements et des fins. Il représente les moments de transition. Il garde les grilles, les portes. Un dieu purement romain qui protège la ville. Une image singulière que je vais rencontrer partout.
Ganimede, Narciso, Apollo che trasformò in un fiore l'ombra del giovinetto. Tutti i mitici parlano d'amore, di unioni senza rivali. Ma io mi son preso in casa un ospite crudele.
Io sono un poeta. Tu dirai, ma com'è che sei vestito così malamente? Proprio per questo.
Installée à Rome avec son mari et sa fille pendant un an, la jeune femme franchit bientôt une nouvelle étape, écrire en italien. Dès son arrivée, l'auteur commence à tenir un journal intime dans sa nouvelle langue. Elle s'exerce également à la rédaction de récits qu'elle appelle ses petites pièces italiennes. Face à la contrainte, elle éprouve un sentiment de frustration, mais elle persiste dans ses efforts et s'oblige à fréquenter quotidiennement les bibliothèques. Un jour, je me trouve dans une bibliothèque où je ne me sens pas vraiment à l'aise, où d'habitude je ne réussis pas à bien travailler. Là, assise à un bureau anonyme, me vient à l'esprit un récit entier en italien. Il me vient en un éclair. J'écoute les phrases dans mon cerveau. Je ne sais pas d'où viennent ces phrases, je ne sais pas comment je parviens à les entendre. J'écris rapidement dans le cahier. J'ai peur que tout ne disparaisse avant que j'aie pu le noter. Tout se déroule tranquillement. Je ne me sers pas du dictionnaire. Il me faut 2 heures pour écrire la première moitié du récit. Le jour suivant, je retourne quelques heures de plus à la même bibliothèque pour le terminer. J'aperçois une brèche, ainsi qu'une source. J'en suis abasourdi. Cela ne me ressemble pas d'écrire un récit de cette façon. En anglais, je peux ruminer ce que j'écris. Je peux m'arrêter après chaque phrase pour trouver le mot juste, pour réorganiser, pour changer 1000 fois d'idée. Tandis qu'en italien, comme un soldat dans le désert, je dois simplement avancer. Je sais qu'il y aura temps à corriger, à réécrire, mais je sais que ma vie d'écrivain ne sera plus jamais la même. Le récit s'intitule « L'échange ». De quoi parle-t-il ? Une traductrice blasée s'installe dans une ville indéterminée à la recherche d'un changement. Elle y arrive seule, sans presque rien, qu'un pull noir. Je ne sais pas comment lire le récit, je ne sais pas quoi en penser. Bien qu'il soit venu de moi, il ne me semble pas complètement de moi. Je ne suis certaine que d'une chose, je n'aurais jamais écrit ce récit en anglais. Je déteste analyser ce que j'écris. Mais quelques mois plus tard, la signification de cet étrange récit me vient tout à coup à l'esprit. Le pull, c'est la langue. Découvrons cette petite pièce italienne si capitale dans le parcours personnel de la romancière. La nouvelle s'intitule « L'échange ». C'est l'histoire d'une femme solitaire, divisée entre 2 cultures et 2 images d'elle-même, en quête d'une nouvelle vie. En voici les premières pages. Il y avait une femme, une traductrice, qui voulait être une autre personne. Il n'y avait pas de raison précise. Elle avait toujours été ainsi. Elle avait des amis, une famille, un appartement, un travail. Elle avait en somme une vie heureuse dont elle était reconnaissante. La seule chose qui la tourmentait était ce qui la distinguait des autres. Quand elle pensait à ce qu'elle possédait, elle ressentait une douce répulsion. Parce que chaque objet, chaque chose qui lui appartenait, lui apportait la preuve de son existence. Chaque fois qu'elle se souvenait de sa vie passée, elle était convaincue qu'une autre version aurait été meilleure. Elle se considérait comme imparfaite, comme le premier jet d'un livre. Elle voulait générer une autre version d'elle-même, de la même façon qu'on peut transformer un texte en passant d'une langue à l'autre. Parfois, elle avait envie de disparaître de la surface de la terre comme un fil sur l'ourlet d'une belle robe qu'on coupe avec une paire de ciseaux. Pourtant, elle ne voulait pas se suicider. Elle aimait trop le monde, les gens. Elle aimait le vert de la mer, la lumière du crépuscule, les galets épars sur le sable. Pour toutes ces raisons, elle aurait vécu pour toujours. Voulant comprendre la raison pour laquelle elle se sentait ainsi, elle décida un jour d'effacer les traces de son existence. À l'exception d'une petite valise, elle jeta ou donna tout ce qu'elle possédait. Elle voulait vivre dans la solitude, comme un moine, pour affronter ce que justement elle ne parvenait pas à supporter. À ses amis, à sa famille, à l'homme qu'elle aimait, elle dit qu'elle devait partir un temps. Elle choisit une ville où elle ne connaissait personne, dont elle ne comprenait pas la langue, où il ne faisait ni trop chaud ni trop froid. Elle emporta avec elle les vêtements les plus simples possibles, tous noirs. Une robe, une paire de chaussures et un pull noir en laine légère, souple, avec 5 petits boutons. Elle arriva au moment où la saison changeait. Il faisait chaud au soleil et froid à l'ombre. Elle loua une chambre. Elle marcha pendant des heures, errant sans but, sans parler. C'était une petite ville, agréable mais impersonnelle, sans touristes. Quand elle était fatiguée, elle allait au cinéma voir un film. Les jours devenaient plus courts, plus sombres. Petit à petit, les arbres perdirent leurs couleurs, leurs feuilles. L'esprit de la traductrice se vidait. Elle commençait à se sentir légère, anonyme. Elle imagina qu'elle était une feuille qui tombait, identique aux autres. La nuit, elle dormait bien. Le matin, elle se réveillait sans inquiétude. Elle ne pensait ni au futur, ni aux traces de sa vie. Elle était suspendue dans le temps, comme une personne sans ombre. Et pourtant, elle était vivante. Elle se sentait plus vivante que jamais. Résumons la suite de la nouvelle. Plus tard, le personnage de la traductrice croit avoir perdu son précieux pull noir lors d'un essayage. Elle met du temps à apprivoiser un autre vêtement qui, en réalité, n'est autre que le sien. C'est la même confusion entre deux sentiments, le familier et l'étranger, entre deux langues, l'anglais et l'italien, que traverse alors Giunpa Lahiri au cours de son long apprentissage. Dans le passage suivant, elle s'interroge sur ce qui motive son envie d'écrire en italien et revient sur les origines profondes de sa vocation. D'où vient ce désir de m'éloigner de ma langue dominante, la langue dont je dépends, d'où je viens comme écrivain, pour me donner à l'italien ? Avant de devenir écrivain, il me manquait une identité claire, nette. C'est à travers l'écriture que je suis parvenu à me réaliser. Mais quand j'écris en italien, je ne me sens pas ainsi. Puis-je me définir comme un auteur sans ressentir cette autorité que je ressens avec l'anglais ? Comment est-il possible, quand j'écris en italien, que je me sente tantôt plus libre, tantôt paralysée, contrainte ? Parce qu'en italien, j'ai la liberté d'être imparfaite. Je m'aperçois que l'envie d'écrire dans une nouvelle langue dérive d'une espèce de désespoir. Je me sens tourmenté, je désire autre chose, quelque chose que probablement je ne devrais pas désirer. Je sais qu'en italien, mon écriture est quelque chose de prématuré, de téméraire, toujours approximatif. Je veux demander pardon. Je veux expliquer la source de mon élan. Pourquoi est-ce que j'écris ? Pour connaître le mystère de l'existence. Pour me tolérer moi-même, pour approcher tout ce qui se trouve hors de moi. Si je veux comprendre ce qui me touche, ce qui me perturbe, ce qui m'angoisse, en bref, tout ce qui me fait réagir, je dois mettre des mots dessus. L'écriture est ma seule façon d'absorber et d'ordonner la vie. Autrement, je m'effraierais, je me torturerais trop. Ce qui a lieu sans être exprimé par des mots, sans être transformé et, en un sens, sans être purifié dans le creuset de l'écriture, ne signifie rien pour moi. Depuis mon enfance, j'appartiens uniquement à mes mots. Je n'ai ni pays, ni culture précise. Si je n'écrivais pas, si je ne travaillais pas avec les mots, je ne me sentirais pas présente au monde. Que signifie un mot et une vie ? Il me semble à la fin que c'est la même chose. Un mot peut avoir tant de dimensions, tant de nuances, une telle complexité, tout comme une personne, tout comme une vie. La langue est le miroir, la métaphore principale, parce que dans le fond, la signification d'un mot, comme celle d'une personne, est quelque chose de démesuré, d'ineffable.
Mi pareva di avere qualcosa di così semplice da dire. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro.
À la discipline de la langue s'ajoute bientôt une nouvelle difficulté, d'ordre symbolique, comment prendre sa place face au modèle des grands écrivains. En lisant un entretien avec le romancier mexicain Carlos Fuentes, je trouve ceci. Il est extrêmement utile de savoir qu'on ne pourra jamais atteindre certains sommets. Fuentes parle de certains chefs-d'œuvre littéraires, des œuvres géniales comme Don Quichotte, par exemple, qui demeurent intouchables. Je crois que ces sommets jouent un rôle double, considérable pour les écrivains. Ils nous montrent la perfection et nous rappelle notre médiocrité. Comme écrivain, quelle que soit la langue, je dois tenir compte de la présence de très grands écrivains. Je dois accepter la nature de ma contribution par rapport à la leur, tout en sachant que je ne parviendrai jamais à écrire comme Cervantes, comme Dante, comme Shakespeare, j'écris quand même. Je dois gérer l'inquiétude que ces sommets peuvent susciter, autrement je n'oserais pas écrire. À présent que j'écris en italien, la remarque de Fuentes me paraît encore plus pertinente. Désormais, le sommet n'est pas l'œuvre d'un écrivain plus brillant que moi, mais le cœur de la langue en soi. Même si je sais que je ne réussirai certainement pas à entrer dans ce cœur, je cherche à travers l'écriture à l'atteindre. Je me demande si je ne vais pas à contre-courant. Je vis à une époque où tout semble possible, où personne ne veut accepter les limites. Grâce à la technologie, aucune attente, aucune distance. C'est pour cela que l'on peut dire que le monde est plus petit que par le passé. Nous sommes toujours connectés, joignables. La technologie réfute la distance, aujourd'hui plus que jamais. Et pourtant, mon projet en italien me rend pleinement consciente des distances immenses entre les langues. Une langue étrangère peut signifier une distance totale. Elle peut représenter aujourd'hui encore la cruauté de notre ignorance. Pour écrire dans une nouvelle langue, pour en pénétrer le cœur, la technologie n'est d'aucune aide. On ne peut pas accélérer le processus, on ne peut pas l'abréger. Le chemin est long. On le parcourt en boitillant. Il n'y a pas de raccourci. Aujourd'hui encore, la distance entre l'italien et moi demeure infranchissable. Il m'a fallu presque la moitié de ma vie pour faire à peine deux pas, pour arriver seulement ici. En ce sens, la métaphore du petit lac que je voulais traverser, avec laquelle j'ai commencé cette série de réflexions, est erronée. Parce qu'en réalité, une langue n'est pas un petit lac, mais un océan. Un élément terrible et mystérieux, une force de la nature devant laquelle je dois m'incliner. En italien, il me manque une perspective complète. J'écris finalement dans une tranchée. J'écris dans les marges, comme si je vivais depuis toujours dans les marges des pays, des cultures. Une zone périphérique où il n'est pas possible de me sentir enraciné, mais où désormais je me sens à mon aise. En quelque sorte, l'unique zone à laquelle je crois appartenir. Je peux longer les côtes de l'italien, mais ces terres intérieures m'échappent. Revenons à Fuentes. Je suis d'accord. Je crois qu'être conscient de l'impossibilité est au centre de la pulsion créatrice. Face à tout ce qui me semble impossible à atteindre, je m'émerveille. Sans un sentiment d'émerveillement devant les choses, sans l'étonnement, on ne peut rien créer. Si tout était possible, quel serait le sens, la beauté de la vie ? Jhumpa Lahiri.
I like being at the beginning, again, as a reader.
J'aime en être encore au début en tant que lectrice et en tant qu'écrivaine.
I like that I only have.
J'aime être limitée. J'aime n'avoir seulement qu'un certain vocabulaire et que certains outils. Je ne peux pas aller aussi loin que cela me plaît. C'est une sorte de pauvreté, vous voyez. C'est un choix de faire avec moins et pas plus.
Après Rome, faisons un détour par Venise. Dans la cité vénitienne, l'entrelac des ruelles et des ponts inspire à l'auteur une nouvelle métaphore pour tenter de décrire son rapport aux langues et à l'écriture. À Venise, la ville des masques, la jeune femme a le sentiment d'une identité trouble, irréelle, comme le reflet des façades dans l'eau des canaux. À Venise, je ne peux pas me déplacer sans traverser d'innombrables ponts piétons. Je suis suspendu au milieu de chaque pont, ni ici, ni là. Écrire dans une autre langue ressemble à un parcours de ce genre. Mon écriture en italien, un peu comme un pont, est quelque chose de construit, de ténu. Elle pourrait s'effondrer à tout moment, me mettant en danger. L'anglais coule sous mes pieds. Je m'en suis aperçu, c'est une présence indéniable, même si je cherche à l'éviter. Il reste, comme l'eau à Venise, l'élément le plus fort, le plus naturel, l'élément qui menace toujours de m'engloutir. À Venise, je m'aperçois d'un état d'inversion de presque tous les éléments. Il m'est difficile de distinguer entre ce qui existe et ce qui semble être une illusion. Tout me paraît instable, mouvant. Les rues ne sont pas solides, les maisons semblent flotter. Le brouillard peut faire disparaître l'architecture. L'eau peut inonder une place. Les canaux reflètent une version inexistante de la ville. Le sentiment d'égarement que j'ai ressenti à Venise est semblable à celui qui me prend quand j'écris en italien. À Venise, malgré le plan des Sestieri, je me perds. le labyrinthe vénitien transcende son plan comme une langue transcende sa grammaire. Marcher dans Venise, tout comme écrire en italien, est une expérience déconcertante. Quand j'écris en italien, j'affronte tant de ruelles aveugles, tant d'ancles abrupts dont je dois me libérer. Avec les années, Venise a un effet toujours plus déconcertant sur moi. Son irrésistible beauté me transperce. Je suis submergé par la fragilité de la ville. Je me sens enveloppé dans un rêve ardent qui semble toujours sur le point de se dissoudre. Un rêve plus vrai que la vie. Passer régulièrement sur les ponts me fait penser à ce passage que nous faisons tous sur la terre, entre la naissance et la mort. Parfois, en traversant certains ponts, j'ai peur d'avoir déjà atteint l'au-delà. Quand j'écris en italien, en dépit de mon amour pour la langue, je ressens la même inquiétude. Ce pas que je suis en train de faire, il me semble que c'est un saut dans le vide, une inversion de moi-même. Comme les reflets des palais qui bougent à la surface du Grand Canal, mon écriture en italien me paraît être quelque chose d'impalpable, vaporeuse comme le brouillard. J'ai peur que le pont entre l'italien et moi, à la fin, n'existe pas. Qu'il restera, dans la meilleure des hypothèses, une chimère. Revenons au méandre de la langue. Dans le chapitre suivant, Jhumpa Lahiri évoque une difficulté particulière qu'elle a rencontrée dans le domaine des conjugaisons. Comment saisir la distinction entre l'imparfait et le passé composé ? Là encore, l'épreuve linguistique devient le révélateur d'une souffrance plus intime. Une fissure intérieure qu'elle décrit avec une grande sincérité. Elle trouve alors la force de sublimer son sentiment de frustration pour le transformer en force créatrice. Je comprends que le rapport entre l'imparfait et le passé composé est un système, complexe et précis, pour rendre plus tangible, plus vivant le temps qui a passé. Une manière de raconter quelque chose d'abstrait, de percevoir quelque chose qui n'existe pas. Inutile de dire que ce blocage me fait me sentir précisément très imparfaite. Bien que ce soit frustrant, il me semble que c'est mon destin. Je m'identifie à l'imparfait parce qu'un sentiment d'imperfection a marqué ma vie. J'essaie toujours de m'améliorer, de me corriger, parce que je me suis toujours senti comme une personne défectueuse. À cause de mon identité partagée, à cause peut-être de mon caractère, je me considère comme une personne incomplète, en quelque sorte insuffisante. Il y a une cause linguistique à cela, l'absence d'une langue à laquelle je puisse m'identifier. Enfant, déjà en Amérique, j'essayais de parler le bengali à la perfection, sans le moindre accent étranger, pour faire plaisir à mes parents, surtout pour me sentir complètement leur fille. Mais ce n'était pas possible. D'autre part, je voulais qu'on me considère comme une Américaine, mais bien que je parle la langue à la perfection, cela non plus n'était pas possible. J'étais en suspens plutôt qu'enraciné. J'avais deux côtés, tous deux imprécis. L'angoisse que je ressentais, et que parfois je ressens encore, provient d'un sentiment d'inéquation, d'être une déception. Ici, en Italie, où je me sens si bien, je me sens plus imparfaite que jamais. Pourquoi, en tant qu'adulte, en tant qu'écrivain, cette nouvelle relation à l'imperfection m'intéresse-t-elle ? Que m'offre-t-elle ? Je dirais une clarté aveuglante, une conscience plus profonde de moi-même. L'imperfection libère l'invention, l'imagination, la créativité. Elle stimule. Plus je me sens imparfaite, plus je me sens vivante. J'écris depuis l'enfance pour oublier mes imperfections, pour me cacher sur la toile de fond de la vie. En un sens, l'écriture est un hommage prolongé à l'imperfection. Un livre, tout comme une personne, demeure quelque chose d'imparfait, d'incomplet durant toute sa création. De retour à Rome, pourtant, la romancière a l'impression de se heurter à un mur d'incompréhension. Un jour, dans une boutique, la jeune femme souffre de la comparaison avec son mari, qui s'exprime si bien que la vendeuse le prend pour un Italien. Au-delà de l'anecdote, l'auteur ressent une humiliation profonde qui la ramène à son identité conflictuelle. En Amérique, quand on me rencontre pour la première fois, quand on me voit, et puis quand on apprend mon nom, et puis quand on entend la manière dont je parle anglais, on me demande d'où je viens. Je dois justifier la langue dans laquelle je parle. Si je ne parle pas, de nombreux Américains penseront que je suis étrangère. Un jour, je me souviens, un type dans la rue a voulu me donner un prospectus. Quand j'ai refusé, le type a crié « What the fuck is your problem? Can't speak English ?» Ce mur, je ne peux pas non plus l'éviter en Inde, à Calcutta, dans la ville de ma prétendue langue maternelle. Là, à part mes parents, presque tout le monde pense que moi, qui suis né et grandi hors d'Inde, je parle seulement l'anglais ou que je comprends à peine le bengali. Malgré mon apparence et mon nom bengali, ils me parlent anglais. Quand je réponds en bengali, ils expriment la même surprise que certains Italiens, que certains Américains. Personne, nulle part, ne part du principe que je parle les langues qui font partie de moi. Je suis écrivain. Je m'identifie profondément avec la langue, je travaille avec elle. Et pourtant le mur me met à distance, me sépare. Le mur est quelque chose d'inévitable, d'omniprésent. Il m'entoure partout où je vais, à tel point que je me demande si le mur, ce n'est pas moi. J'écris pour casser le mur, pour m'exprimer de manière pure. Quand j'écris, mon apparence, mon nom ne compte pas. Je suis écouté sans être vu, sans préjugés. Sans filtre. Je suis invisible. Je deviens mes mots et mes mots deviennent moi. Ces mots se situent au confluent de trois langues, le bengali, l'anglais et l'italien. Ces trois langues tracent comme un triangle fragile, dont les côtés pourraient facilement s'effacer. Mais derrière la forme géométrique, se dévoile un autre dessin, le véritable autoportrait de la romancière, aussi bref que bouleversant. Le bengali disparaîtra quand mes parents ne seront plus là. Quand ils seront morts, il cessera d'être une langue fondamentale dans ma vie. L'italien reste une langue extérieure. Elle aussi pourrait disparaître, surtout quand je devrais quitter l'Italie, si je ne continue pas à la cultiver. L'anglais reste le présent, permanent, indélébile. La belle-mère ne m'abandonne pas. Bien que ce soit une langue imposée, elle m'a offert une voix propre, correcte, pour toujours. Je pense que ce triangle est une sorte de cadre et que ce cadre contient mon autoportrait. Le cadre me définit, mais que contient-il ? Durant toute ma vie, j'ai voulu voir, à l'intérieur du cadre, quelque chose de spécifique. Je voulais que dans le cadre, il y ait un miroir qui puisse refléter une image précise, nette. Je voulais voir une personne entière plutôt que fragmentée. Mais cette personne n'existait pas. À cause de ma double identité, je ne voyais que l'oscillation, la distorsion, la dissimulation. Je voyais quelque chose d'hybride, de flou, toujours confus. Je pense que ne pas réussir à voir une image spécifique dans le cadre est la colère de ma vie. L'absence de l'image que je cherche me pèse. J'ai peur que le miroir ne reflète rien d'autre qu'un vide, qu'il ne reflète rien. Je viens de ce vide, de cette incertitude. Je crois que le vide est mon origine et mon destin. De ce vide, de toute cette incertitude, vient le désir de créer, le désir de remplir le cadre. Nous approchons de la fin de cet essai en d'autres mots. Après son cri de colère, la quête de l'auteur s'apaise enfin. Dans les dernières pages, une image heureuse vient remplir le cadre de son existence. C'est une référence à la littérature antique, comme si l'Italie contemporaine n'avait été qu'une porte vers une vérité plus ancienne, le latin, qu'elle avait elle-même pratiqué lorsqu'elle était étudiante. En conclusion, voici ce passage magnifique où Giunpa Lahiri rend hommage à Ovid et où la notion de métamorphose prend tout son sens pour elle. Je me souviens comme si c'était hier du moment où Daphné, la nymphe, se transforme en laurier. Elle fuyait Apollon, le dieu insistant qui la désirait. Elle voulait rester seule, chaste, dévouée comme la Vierge Diane à la forêt et à la chasse. La nymphe, épuisée, incapable d'échapper au dieu, supplie son père, Péné, le dieu du fleuve, de l'aider. Ovide écrit, sa prière à peine achevée, une lourde torpeur envahit ses membres. Une mince écorce entoure sa poitrine tendre, ses cheveux s'allongent et deviennent un feuillage, ses bras des rameaux, son pied si véloce tantôt se fixe au sol par d'inertes racines, sa tête forme une cime, d'elle il ne reste que l'éclat. Quand Apollon pose la main sur le tronc, il sent encore battre le cœur sous l'écorce récente. La métamorphose est un processus violent et régénérateur, une mort et une naissance. Il n'est pas clair où finit la nymphe et où commence l'arbre. La beauté de cette scène est qu'elle représente la fusion de deux éléments, de deux êtres. Les mots donnent une impression double, déroutante. Ils expriment la signification mythique, je dirais primordiale, d'être deux choses en même temps. D'être quelque chose d'indistinct, d'ambigu, d'avoir une double identité. Tandis qu'elle ne s'est pas transformée, Daphné court pour sa vie. Une fois arrêtée, elle ne parvient plus à se mouvoir. Apollon peut la toucher, mais il ne peut pas la posséder. Quoi qu'elle soit cruelle, la métamorphose est son salut. Comme je l'ai déjà dit, je pense que mon écriture en italien est une fuite. En tâchant d'aller au cœur dans ces petits récits de ma métamorphose linguistique, je me rends compte que je cherche à m'éloigner, à m'émanciper de l'anglais. Écrivant en italien depuis presque 2 ans, je me sens déjà transformé, rené. Mais le changement, cette nouvelle ouverture me coûte. Comme Daphné, je suis moi aussi figé. À présent, une nouvelle langue, l'italien, me recouvre d'une espèce d'écorce. Je suis la fille d'une mère qui n'a jamais voulu se changer elle-même. Aux États-Unis, elle continuait le plus possible à s'habiller, à se comporter, à manger, à penser, à vivre comme si elle n'avait jamais quitté l'Inde, Calcutta. Son refus de modifier son aspect était sa stratégie pour résister à la culture américaine, la combattre surtout, pour conserver son identité. Devenir ou même ressembler à une américaine aurait signifié une défaite totale. Je suis tout le contraire. Alors que le refus de changer fut la rébellion de ma mère, la volonté de me transformer est la mienne. Il y avait une femme qui voulait être une autre personne. Ce n'est pas un hasard si l'échange, mon premier récit en italien, commence par cette phrase. Toute ma vie, j'ai essayé de m'éloigner du vide de mon origine. En écrivant, j'ai découvert une façon de me cacher dans mes personnages, de m'éluder, de me soumettre à une mutation après l'autre. On pourrait dire que le mécanisme de métamorphose est l'unique élément de ma vie qui ne change jamais. Je crois que le pouvoir de l'art est le pouvoir de s'éveiller, d'aller au fond de soi, de se changer. Que cherchons-nous en lisant un roman, en regardant un film, en écoutant un morceau de musique? Nous cherchons quelque chose qui nous change, dont nous n'avions tout d'abord pas conscience. Nous voulons nous transformer, tout comme le chef-d'œuvre d'Ovid m'a transformé.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Bruno Mourlan. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.